J. Gottlieb, portrait. Être né sous une bonne étoile, voilà qui convient bien au pianiste new-yorkais J. Gottlieb dans la mesure où deux bonnes fées, bien intentionnées, particulièrement inspirées, le pédagogue et compositeur Stefan Volpe et Nadia Boulanger, se sont penchées avec beaucoup d'assiduité, avec beaucoup de ferveur aussi, non pas peut-être sur le berceau de J. Gottlieb, mais en tout cas sur ses premiers pas en musique. Et ces deux bonnes fées ont détecté chez ce jeune musicien, dont les parents n'étaient pas directement musiciens, immédiatement quantité de savoir-faire. Grâce à Nadia Boulanger, J. Gottlieb devient assez vite une figure familière et prometteuse de la scène musicale française, même s'il est toujours prêt à s'envoler vers New York, qui l'appelle bien souvent. J. Gottlieb fait partie de ces instrumentistes, de ces musiciens qui ont choisi très tôt de privilégier la musique de leur temps et de tisser, par conséquent, des rapports privilégiés avec les auteurs de toutes ces musiques en train de s'écrire ou en devenir. Il le fait avec exaltation, il le fait avec un engagement profond et sincère associé à une richesse d'imagination assez hors norme qu'on retrouve dans ses improvisations flamboyantes, toujours savamment structurées. La composition a en effet toujours beaucoup occupé J. Gottlieb jusqu'à ce que le choix s'impose, devenir pianiste ou devenir compositeur. Et toute la carrière de J. Gottlieb s'est construite à partir de ce dilemme.
J'avais effectivement une crise de décision primordiale. Je suis quoi ? Pianiste ou compositeur ? Et je savais que le fait des deux serait uniquement quelque chose de superficiel. Voilà. Il faut une décision. On est pianiste ou compositeur. Il y a trop à faire. Et donc finalement, je laisse à côté l'écrit, musique. Voilà, ça y est. J'aime être sur scène, j'aime ça, et avec un accent sur une musique plus récente. L'urgence, effectivement, a semblé être que je milite pour ces musiciens. Et de toute façon, bon, Ludwig, Wolfgang, Franz et tout le monde sont un peu loin. Et les gens qui sont là, vivants, voilà, en même temps, effectivement, là, on peut dialoguer et appeler et avoir des échanges et avoir des œuvres écrites pour soi. Ça, c'est formidable. Un compositeur écoute tout ce qu'il peut, évidemment, de toute musique. Donc, musique de 20e, enfin, vraiment très, très jeune, Bartok et Stravinsky m'avaient complètement séduit, et ainsi de suite, toujours à l'écoute de ce qu'ils écrivaient. Et Luciano Berio est devenu très, très rapidement, vraiment, c'est toute mon adolescence, une passion, Luciano Berio. Donc, oui, tout cela m'accompagnait, c'est sûr, était dans mes oreilles. Ce qui est un peu logique dans le parcours, c'est le fait que j'étais effectivement compositeur. Et le fait que j'ai noté moi-même quand même une musique sur feuille. En plus, cette casquette, ce que je peux dire, de pianiste. Donc, il y avait les deux qui étaient toujours simultanés.
Thank you.
Tout au long de son parcours dans la musique, Jay Gottlieb a eu la chance de croiser la route de quelques grands compositeurs, parmi eux Olivier Messiaen, Maurice Ohana, Giacinto Scelsi ou encore John Cage. Dans le cas de Messiaen, il s'agit plutôt d'une rencontre double, puisque, juste après la crise dont il vient de parler dans ses jeunes années, Jay Gottlieb a assisté à Tanglewood au cours d'Olivier Messiaen et d'Yvonne Loriot, tout autant subjugué par l'un que par l'autre.
Il n'y avait aucune séparation entre l'être, entre le cerveau, entre les doigts, entre l'instrument, entre la personne, entre l'intelligence, entre le piano. Des êtres comme cela qui entendent tout. C'est le cas des trois, Nadia Boulanger, Messiaen, Yvonne Loriot. Des oreilles, aucun secret pour aucune de ces oreilles. Aucune. Entendaient absolument tout.
Et tu as joué vite la musique de Messiaen.
Très vite, tout de suite.
Tu as commencé
Le catalogue d'oiseaux. Et justement, j'ai choisi, je crois, uniquement pour le côté anecdotique, c'était, ça semblerait vraiment très arbitraire, le loriot. J'ai commencé là, le loriot. J'aimais beaucoup. Et ce que j'ai adoré avec eux, parce que là, il y avait une amitié en plus. Voilà, j'ai passé de temps vraiment avec eux. J'aimais ça. Et on était très heureux de rire et de discuter ensemble. Il y avait un moment où j'étais avec lui, en discussion. Elle arrivait, on ne le voyait pas encore, elle approchait de nous et elle faisait, c'est l'appel de Loriot. Et il dit, ah tiens, c'est elle. J'ai adoré. Voilà, il veut dire des scènes comme ça. Ah, quelle merveille.
La rencontre d'un interprète passionné comme l'est Jay Gottlieb avec un compositeur peut parfois faire naître un vrai compagnonnage. Et en effet, la relation de fidélité et d'amitié que Jay Gottlieb a tissée avec Maurice Ohana est de cet ordre-là.
C'était un compagnon de route, presque un père pour moi. Et j'aimais cette musique, j'aimais cet homme. J'aimais beaucoup son ouverture fantastique, vers tant de choses, même le jazz, etc. Il n'avait pas peur de mauvais goût, je dirais, dans un sens, entre guillemets. C'était un homme très élégant, très digne, soyons clairs. Mais il n'avait pas peur de ces autres choses. Il était tellement, justement, universaliste dans sa vision. Et puis, pianiste, compositeur. Et un pur. C'était vraiment un pur. Il aimait profondément la musique. Il était tellement connu pour être férocement indépendant. Il ne voulait pas être en partie, quoi qu'il soit. Ce n'était pas son style. Il est trop indépendant pour ça. Férocement indépendant. Absolument pas musique pour plaire, forcément musique pour faire effet. Non, c'est une musique qui est entièrement ressentie et surtout, voilà le mot que je vais dire important, entendue. C'est absolument voilà, sincère, tout simplement.
Oh.
Il arrive que les compositeurs entretiennent des rapports privilégiés avec certains interprètes. L'Italien Giacinto Scelsi avait, par exemple, élu de son vivant quelques musiciens et musiciennes chez qui il avait décelé une forme d'incandescence dans le jeu. Dédicataire des 8 préludes de Scelsi, Jay Gottlieb fait justement partie de ces élus qu'il nomme lui-même les Schelsiens.
Merveilleuse amitié, 4 dernières années de sa vie. Ça ne pouvait pas être réduit à le compositeur et son interprète. Ça, c'était trop minimal pour lui. Pour lui, la personne qui jouait sa musique était investie totalement. On est Schelsien ou on ne l'est pas.
Jay Gottlieb a le sens du théâtre et aussi le sens du portrait. À force de côtoyer les compositeurs, il s'en fait une représentation bien personnelle qu'il n'hésite pas à transmettre au cours de ses nombreuses masterclass. Voici par exemple sa vision de John Cage.
Cage, monsieur provocation, mais en même temps, monsieur naturel, parce que c'est vraiment le naturel au galop, je dirais. Lui qui milite pour que le son puisse exister en lui-même. Et comme Scelsi, avec lequel il y a un rapprochement à faire, de point de vue source de ce qu'on entend, c'est-à-dire de vraiment se rendre compte que les sons sont plus importants que la musique. Et c'est une idée très très forte. Et sa définition du son extraordinaire, quand il dit, c'est quoi les sons? Les sons, ce sont des bulles sur la surface du silence. Voilà. Et que tu retournes au silence. Ce que tout le monde retient, les gens qui ont eu la joie de le fréquenter, son sourire, il était tellement serein, comme un bouddhiste zen, très serein. Le grand provocateur, très relax et détendu dans sa révolution. Thank you.
Il arrive souvent à Jay Gottlieb de dire qu'il joue la musique d'aujourd'hui comme celle de Chopin ou de Rachmaninoff, avec le même souci de la justesse du geste.
Il y a un projet, je dirais, et il faut respecter le projet. C'est vraiment la réponse unique qui vient à mon esprit. Quand une pièce exige une beauté de son, voilà, j'y vais. Je dirais la plupart, c'est le cas. Il y a d'autres qui exigent parce qu'une certaine laideur ou un aspect cru. Bon, le cru et le cuit, ça fait le tout. Et donc, on ne peut pas être uniquement dans le beau son, ça c'est sûr. Donc, je respecte le projet, ça c'est la première chose. Et la plupart, quand on joue d'un instrument, peu importe, dans mon cas de piano, on voudrait que ce soit beau. Voilà, ça c'est ma réaction. Je ne veux pas être là en train de taper, c'est-à-dire parce que je ne peux pas contrôler le son. Non, il faut pouvoir contrôler le son et être là vraiment pour mieux servir absolument tout ce qu'on a à jouer.
Est-ce qu'il t'est arrivé de ne pas comprendre les intentions d'un compositeur?
Il y a souvent une question de malentendu. C'est sûr, il y a même parfois des indications tellement invraisemblables que, bon, on est obligé de confronter, poser la question. Ça, c'est l'avantage de travailler avec des gens vivants. On peut les appeler, envoyer un mail, et voilà. Et on peut avoir une réponse très claire. C'est grâce, d'ailleurs, à cet échange qu'on peut arriver à mieux cerner la musique du passé. Et je comprends beaucoup mieux Schumann à force de dialoguer avec Ligeti ou Anna. C'est un crime, ça, c'est absolument certain pour moi.
Parmi les nombreux compositeurs qui ont écrit sur mesure pour Jay Gottlieb, celui-ci a une tendresse particulière pour le compositeur italien Franco Donatoni, qui avait souhaité lui écrire tout un concerto. La vie en a décidé autrement et Donatoni n'a pas eu le temps de réaliser ce projet, main dans la main avec Jay Gottlieb.
Cette œuvre était en fait une ébauche, parce qu'elle ne dure même à peine 10 minutes, une ébauche d'un concerto. Et notre idée ultime était un concerto pour piano et l'orchestre de grande envergure, 3 mouvements. On avait même passé des moments délicieux à discuter ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce concerto? Et on avait tout un parcours, une dramaturgie pour les 3 mouvements. C'était vraiment très clair. Et puis,
c'est comme si tu avais composé l'œuvre avec lui d'une certaine manière.
Et c'est pourquoi j'ai dit qu'on était tellement dans une harmonie, un radar, je dirais, réciproque. Lui a toujours dit de cette musique de cette période que c'était un projet de non-fin, irrésolution, fuite en avant. Et c'est toujours exprimé comme ça. En fait, je m'écoute parler là un instant, voilà mon esprit d'improvisation là. Et pendant que je suis en train de parler, je me dis, mais c'est ça l'improvisation, la fuite en avant. La solution n'est jamais trouvée, mais évidemment, parce qu'on est en train de ce qui s'est il y a encore une suite, et encore une suite. Il y a toujours une suite de maintenant. Maintenant, après maintenant, après maintenant, après maintenant, qui me rappelle la merveilleuse phrase de Igor Stravinsky, je n'ai que maintenant à ma disposition. Et j'adore cela. Et évidemment, la mise en action de cela, c'est l'improvisation. Et il a écrit tellement de manière si splendide, dans le tonu, comme si c'était une improvisation. Et il avait écrit une cadence. Et je lui ai dit, enfin, quand j'ai envie de l'improviser, je vois la réaction de doute, les sites qui se froncent, etc. Vraiment, clair. Un bon compositeur responsable, évidemment, sa réaction. Et j'ai dit, j'ai compris, c'était le moment d'audition. Il fallait que je le prouve, tout simplement. Et je dis, écoute, voilà le genre d'improvisation que je propose, avec ton matériau, évidemment. Et je me mets à improviser pour lui, tête à tête, seul. Alors, à la fin, il y a une merveilleuse réaction. Feu vert! C'est bon! Absolument. Je te donne la bénédiction. Tu feras l'improvisation. C'est bon. Donc, ça existait déjà dans le temps. Et quand Régis Campo a écrit son concerto, c'était avec l'idée que j'improvise. La cadence n'est pas écrite. L'interprète fait ce qu'il veut à ce moment-là.
Jay Gottlieb n'attend pas les cadences des concertos pour improviser. L'improvisation est là depuis toujours et s'il s'y adonne le plus souvent en solitaire à son piano, il aime aussi improviser avec son frère, le percussionniste Gordon Gottlieb, très actif aux États-Unis et là aussi, un tempérament de feu.
Là, c'est un quart de tour, c'est même plus que quart de tour, c'est un 16e, un 32e, 74e de tour. C'est quand même mon vrai jumeau, notre moitié, partie de moi. Le fait qu'il soit musicien aussi, c'est plus que le plus. Avoir une partie de soi alors, qui pourrait jouer en complément parfait, alors là, c'est un cadeau. Et pas le même instrument, ça c'est une complémentarité formidable. On aurait pu être un duo éventuellement de piano, c'est vrai. Mais le fait qu'il soit percussionniste, le piano-percussion, c'est vraiment là une merveille. On se retrouve parfois, surtout pour les concerts, on va pousser je ne sais pas quelle réaction, on dit prononcer ce mot, improvisation. Mais oui, très heureux d'improviser ensemble. Oui, Revituo, c'est vrai, on enfuit évidemment dans évidemment, tout un ensemble d'archétypes, je dirais. Tout ce qui de toute façon est imaginé en soi, c'est une mesure de soi, ça c'est sûr, de ses rêves, de son acquis, ça c'est sûr. Et puis, tout haut, ça c'est sûr, puis projection en avant vers les autres. J'aime beaucoup la définition de Luciano Berio par rapport à l'improvisation, quand il dit c'est une cible qui change constamment. Donc on vise et on cerne cette cible qui change à répétition.
Jay Gottlieb, tel qu'en lui-même, avec ce verbe haut et ce sens du théâtre qui le caractérise. Une émission réalisée grâce à la complicité de Béatrice Richer, Thomas Coudreuse et Xavier Carrère. Lundi prochain, Rodolphe Bruno Boulmier vous proposera le portrait de Michel Tabachnik. 23h30, on aurait pu poursuivre avec une improvisation de Jay Gottlieb, puisqu'à l'improviste pointe son nez. En tout cas, on va improviser, c'est sûr. Bonne fin de soirée.